Nous sommes avec Caroline Carré pour une présentation de son exposition. Donc, bonjour.
Bonjour, enchantée. Merci au public d'être là. Public de qualité. Hein.
Nous allons donc découvrir vos créatures étranges. Pour commencer, je voulais savoir ce qui vous avait amené vers ces sculptures. Est-ce que vous avez été bercé depuis votre naissance par votre famille dans ces mondes merveilleux, ou est-ce que vous avez découvert ça plus tard par le cinéma ou la littérature?
Alors, la littérature, pas forcément. En fait, j'ai très peu de connaissances de la science-fiction, les films, la littérature en général. J'ai toujours été attirée par tout ce qui est un peu les mondes imaginaires, surtout les sens sont très importants pour moi. J'ai fait d'autres petits projets, que ce soit juste dans des boîtes en carton, en essayant d'intégrer déjà là les cinq sens. Donc, dans cette installation aussi, c'est un peu plus difficile à s'en apercevoir parce que je n'ai pas vraiment la boîte autour, mais c'est l'idée d'avoir un passage à l'entrée, qui seraient les deux sculptures, la déesse et la panthère, qui sont les sculptures qui sont un peu entre deux, entre les deux mondes, donc notre monde avec les animaux comme la panthère, les humains comme la déesse, mais qui portent déjà les casques d'apesanteur, parce qu'Akina, cette planète, ça vient du nom In Aqua, dans l'eau, donc c'est une planète d'eau, d'apesanteur, l'apesanteur sous-marine, mais aussi l'apesanteur aérienne. Et donc, justement, ces deux sculptures font le passage, l'entre-deux, entre ces deux mondes, notre monde et celui d'Akuna. Il y a aussi l'idée des bonbons qui sont pour le goût. En même temps qu'on prend les bonbons, il y a un diffuseur d'odeur. Donc, c'est vraiment l'idée de stimuler nos cinq sens. L'idée, c'est qu'on puisse toucher les sculptures. Il y a le son. Dans une plus grande installation, j'aurais envie de faire une interactivité sonore aussi, où il y a différents sons qui se déclenchent selon le déplacement des spectateurs, ou des, pas vraiment des spectateurs, mais des gens qui rentrent sur ma planète. Donc c'est vraiment l'idée d'intégrer les cinq sens, et c'est ça, cette idée des cinq sens que j'ai eue depuis assez petit, et qui est un peu le but dans ce travail, je pense, qu'en stimulant nos cinq sens, qu'on éveille notre sixième, ou plutôt on va dire notre premier sens, qui est celui qu'on a tous à la naissance, qui est celui qui nous ouvre les portes sur l'imaginaire, le fantastique, sur ces mondes qui nous sont souvent moins facilement accessibles plus tard.
Cette planète, vous la voyez comment? Ronde comme la Terre ou complètement différente?
C'est vrai que je pense effectivement à une planète plutôt ronde, bleue, translucide. Elle me fait un peu penser aux yeux de mes deux êtres, de Drakina et du Poulpe. Si on le regarde dans les yeux, on voit une sorte de planète d'eau translucide.
Et vous développez cet univers de quelle façon? Uniquement à travers des sculptures en gros volume? Ou est-ce que vous rajoutez des cartes, des villes avec des populations?
Pour le moment, c'est, j'ai pas encore eu le temps de développer plus, mais c'est effectivement mon projet pour une future installation, si j'ai la possibilité. J'avais envie d'ajouter des plantes lumineuses, plus de son, peut-être de jouer avec des étoffes, des courants d'air qui gonflent, qui bercent un peu les choses, aussi par rapport à l'idée de l'apesanteur, parce que c'est vrai que j'ai envie de transmettre aussi ce sentiment d'apesanteur. Qu'on connaisse ce sentiment de flottement, de bien-être, un sentiment qui m'inspire fortement quand j'ai de la chance de pouvoir faire de la plongée.
Parce que, donc il y a une pieuvre, vous l'appelez comment? Pieuvre ou...
Alors, chaque sculpture a un nom, donc le poulpe, il s'appelle Aculpo, le dragon c'est Drakina, et l'arbre c'est Aquarbro.
Donc on retrouve... Donc ces différentes créatures, à part égales sur Akina, ou est-ce que, comme sur la Terre, on a une grande majorité d'océans?
J'ai pas tout à fait compris là.
Est-ce que vous avez des parts de forêt autant que de mer?
Alors, moi je vois qu'il y a principalement de la mer, et puis donc les êtres se déplacent dans l'eau, donc c'est une planète d'eau, et aérienne. Donc il y a quelques rochers, quelques îles, mais c'est principalement une planète d'eau.
Pour l'eau, le sentiment de bien-être, c'est vous l'expliquez par votre passion pour la plongée, ou est-ce que vous allez un petit peu plus loin jusqu'à le rapport avec le fœtus dans le ventre de sa mère.
C'est vrai que c'est marrant parce que je viens d'accoucher il y a 2 mois et c'est vrai que je me suis dit que l'enfant il doit se sentir super bien dans cette apesanteur et que c'est assez dur tout d'un coup le passage où il y a cette pesanteur et de devoir, voilà, on bouge différemment. J'ai commencé sur l'idée de l'apesanteur avant même avoir fait de la plongée. Donc mes premières sculptures étaient, ce qui est assez marrant, en béton, donc une matière très lourde, c'était vraiment la pesanteur. Et puis une de mes premières sculptures, c'était une surface lunaire avec du béton. Ce qui m'intéressait dans la matière du béton, c'est que c'est une matière qu'on connaît plutôt maussade, le sol, les murs des bâtiments qui sont gris, etc. Donc j'avais envie de transformer cette matière du béton en une sorte de fossile qui a traversé le temps et l'espace, qui contient des traces, une histoire. Donc il y a eu l'idée de la surface lunaire, il y a eu des... Ensuite, il y a eu toute une collection de meubles en béton où il y avait d'une part des traces plutôt archéologiques, le temple de Karnak par exemple, les anciennes civilisations, et le mélange avec la puce électronique, donc le côté d'une part matériel, grand, architecture, et le côté plutôt futuriste, virtuel, contemporain de la puce électronique. Et l'idée, c'est toujours que chacun puisse s'imaginer soi-même ensuite et puis déchiffrer. Pareil pour mes êtres, ils contiennent tous des écritures qui sont une sorte de savoir qu'ils ont acquis à travers leur vie et qui est un savoir plutôt universel. Et c'est à chacun de nous de le décoder et de le déchiffrer.
Sur les différentes structures qu'on a là, elles sont en quelle matière ?
Elles sont faites en résine. Donc la résine, c'est une matière qu'on utilise aussi pour la construction des bateaux, voire même pour les avions. L'avantage est que c'est très léger et puis en même temps très costaud. Et là, j'ai mélangé à la résine de la poudre de bronze qui donne l'aspect de bronze. Donc il faut poncer afin d'obtenir cet aspect-là.
Et pour toute l'organisation au niveau des lumières, l'électricité, tout ça, c'est compliqué à intégrer ?
C'est assez compliqué parce que mes sculptures sont tous un peu comme des tubes. Si on regarde le cou du dragon, les bras du poulpe, c'est ce qui m'intéresse. Mais en même temps, c'est vrai que c'est assez difficile. J'ai rien que pour rassembler les pièces lors du moulage et d'infiltrer tous ces circuits. Donc ça, c'est vrai que c'était assez compliqué.
Au niveau volume, vous travaillez toujours sur des pièces de cette taille-là, à peu près 2 mètres 50 de haut, ou est-ce que vous avez des éléments encore plus monumentaux ?
J'aimerais bien. Après, c'est une question de frais, de transport, etc. C'est vrai que j'ai eu quelques projets dans l'architecture où j'ai pu intégrer directement des sortes de fossiles dans l'architecture. Je pense que si j'avais la possibilité de travailler encore un peu plus, encore plus grand, bah, ça m'intéressait énormément. Je ne parle même pas de l'éléphant que vous avez ici à Nantes. Ça, c'est à mon avis la plus belle sculpture de l'univers entier. Elle est incroyable. Mais voilà, pour le moment, c'est cette taille-là. Après, ça dépend des projets.
À aujourd'hui, vous travaillez sur quel type de créature ? Est-ce que vous êtes encore en train de développer votre monde ?
Pour le moment, oui, je suis toujours encore en Aquina. J'aimerais bien pouvoir développer ce monde si j'ai la possibilité pour un futur projet. Donc, je viens plus ou moins de... Je suis encore là-dedans.
Est-ce que vous avez fait des créatures animées, enfin animatronics, ou des créatures qui se déplacent ou qui interagissent éventuellement, faire une sorte de mobile pour l'air ?
Alors à la base, quand j'ai commencé le poulpe, j'ai vraiment essayé avec tous les moyens de le faire bouger. Jusqu'aux États-Unis, j'ai essayé de trouver des gens qui seraient intéressés là-dedans parce que c'est que même la NASA, elle étudie le poulpe qui est un être super intelligent pour désamortir les... Non, je pense que c'est pas le bon mot, mais les mines, désamorcer les mines, etc. Donc j'aurais trouvé génial de pouvoir travailler dans l'idée d'un projet animé, mais il faut vraiment avoir la chance de tomber sur une personne qui s'intéresse à ça.
Oui, comment tout le monde communique ? Est-ce que vous avez des interactions entre les arbres, les poulpes, les dragons ?
Alors c'est vrai que j'aimais l'idée de la communication entre les êtres eux-mêmes, ils communiquent à travers les lumières. Je pense que vous avez tous déjà vu que dans les profondeurs, il y a des méduses translucides qui émettent des sortes de circuits lumineux et c'est une sorte de communication. Donc les êtres d'Aquina communiquent à travers la lumière, mais aussi à travers la télépathie. Donc ils sont très proches l'un de l'autre, donc ils arrivent à savoir ce que pensent les autres. Ils sont très curieux aussi d'entrer en communication avec nous. Personnellement, je pense que si on arrive à se brancher sur la bonne onde, on arrive tout à fait à communiquer entre nous, entre les êtres, entre les animaux. Je pense qu'il existe une sorte de communication universelle. Finalement, on vient tous de la même poussière. Et c'est sûr qu'il y a des gens... Il y a des gens qui sont, à mon avis, proches de la nature ou d'autres, qui arrivent tout à fait à avoir un savoir incroyable dont on n'arrive toujours pas à comprendre comment ça marche. Et je pense que c'est vraiment parce qu'ils arrivent à se brancher sur cette onde qui nous relie avec l'univers entier, qui traverse les temps et les espaces.
Vous faites, à titre personnel, des recherches à ce niveau-là? Est-ce que vous vous intéressez, par exemple, à l'éthologie pour les chevaux ou d'autres façons d'être en interaction avec la nature?
Alors, j'ai entendu plein d'histoires de choses assez fous par rapport, par exemple, les dauphins qui ont des sortes de sensibilité, un système sensoriel, ou les orques, les baleines, que je trouve assez hallucinant. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ensuite, je me suis intéressée aussi au côté scientifique par rapport à la mécanique quantique, qui, à mon avis, explique plein de choses qu'on a jusqu'à maintenant pas réussi à expliquer. On nous explique que la matière peut être sous forme de particules, mais aussi sous forme d'ondes, ça dépend de l'observation. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fortement stimulée et ouvert plein de portes. Donc voilà, je me suis intéressée à la science, principalement à la mécanique quantique. Et voilà.
Et pour la télépathie, vous êtes plutôt côté encore fiction à ce niveau-là?
Même la télépathie, en fait, la mécanique quantique, elle explique que si on prend une particule et qu'on la divise en deux, elle part dans deux directions opposées. Et si on prend une particule, on la change, l'autre qui est partie dans le sens opposé, elle se change de la même manière. Donc elle prend les mêmes caractéristiques comme celles qu'on a changées. Donc la mécanique quantique, elle nous explique d'une certaine manière la télépathie, qu'elle est possible. Et un autre exemple, c'est les jumeaux, les gens en général qui sont proches. Il y a des choses assez fous qui sont possibles et dont j'y crois.
Du coup, ça vous oblige à faire des recherches en permanence, vous documenter sur ces thèmes-là ou... Est-ce que vous travaillez du coup plus de façon scientifique ou de façon intuitive sur le développement de votre univers?
C'est principalement intuitif. J'ai pas non plus envie que mon travail soit un travail très conceptuel où il faut avoir un savoir ou quoi que ce soit. Au contraire, j'ai envie que mon travail touche les petits enfants ou les gens qui ont vraiment aucun savoir dans ce domaine-là. Si j'arrive à toucher les sens des gens qui se promènent dans mon travail, j'ai atteint mon but et c'est ça finalement ce que j'ai envie. Ensuite, la science, elle m'ouvre des portes, elle me stimule, elle fait que je m'interroge, mais c'est pas nécessaire que le public ait ce savoir-là aussi.
Pour pouvoir voir vos œuvres, là on a eu la chance de découvrir aux Utopiales, vous avez déjà d'autres lieux d'exposition qui sont prévus ou est-ce que vous avez une galerie personnelle qui expose en permanence?
Pas du tout, en fait c'est la première fois que j'ai eu la chance d'exposer et j'en suis très heureuse.
Vous avez un site internet peut-être sur lequel on peut retrouver des informations?
Oui.
Des photos?
Mon site internet c'est www.carolinecarret.com. Il y a plusieurs vidéos, il y a les autres projets, il y a des photos.
Y aurait-il des questions dans le public?
Merci. Vous dites que vos œuvres, du coup, vous documentez beaucoup apparemment et vous trouvez pas mal de références dans la nature. Et je me demandais si vous les créez aussi avec une idée préconçue dans la tête ou si vous découvriez en même temps en fait, que l'œuvre était créée. L'aspect qu'elle aura, quoi.
Alors en fait, je fais quasiment jamais des croquis. Je commence et puis ça vient à fur et à mesure. La sculpture se fait à fur et à mesure, assez spontanément, oui.
Et j'avais une deuxième question. J'ai remarqué que les consonances de vos noms sonnent très féminins et le monde de l'eau aquatique, tout ça, ça fait pas mal référence aussi à un domaine féminin. Je me demandais s'il y avait aussi une place pour le genre masculin en fait, sur ce monde-là ou si c'était plus un monde...
Oui, c'est tout à fait à partie égo. Peut-être j'ai mal prononcé, mais le poulpe, c'est à culpo. Donc, en même temps, j'ai même pas... c'est même pas que pour moi le dragon est féminin ou le poulpe est masculin. C'est, pour moi, il y a même pas vraiment de sexe en fait. C'est les noms que j'ai trouvés en lien par rapport à l'eau. Et c'est ça qui est important. Je pense même pas si loin au côté masculin-féminin. Pour moi, même la reproduction sur la planète, pour moi, elle se fait selon les êtres qui s'aiment, qui ont envie d'être ensemble, que ce soit masculin-féminin, ça n'importe pas.
D'accord, merci.
D'autres questions, peut-être ?
Je peux peut-être juste rajouter encore une chose, c'est cet entre-deux qui m'a toujours fascinée. C'est, par exemple, si je prends l'exemple de la méduse, que je trouve assez incroyable, parce qu'elle est entre animal, entre végétal. Pareil pour mon arbre, j'ai essayé de trouver un peu un entre-deux. Donc c'est un arbre végétal, mais en même temps, si on regarde bien, il a des yeux, il a plus ou moins de bras, les racines font penser à des pattes. Les espèces de ça peut être des sortes de tentacules, mais aussi des branches végétales qui l'entourent, qui le transpercent. Donc c'est un peu le côté entre deux qui me fascine aussi, comme finalement nous aussi, d'être à moitié dans la réalité et puis à moitié dans l'imaginaire sur une autre planète. Des fois il suffit de très peu pour pouvoir passer, plonger dans un autre monde.
Merci pour ce temps.
Bah, surtout merci à toi pour ce rendez-vous spontané, c'est super sympa. Je pense que sans toi, il n'y en aurait pas eu.
Et puis, donc, vous restez encore un petit peu jusqu'à la fin du dimanche. Donc, si les gens veulent venir vous voir et vous poser des questions.
Je suis volontiers là encore un petit moment pour répondre à vos questions.
Merci à tous et bonne fin de festival.
Merci aussi encore.